pour la première fois, les 100 États signataires de l'accord d'Oslo se sont retrouvés ensemble. C'était la semaine dernière à Vientiane au Laos. 100 États, oui, mais manquaient 4 pays qui n'ont jamais voulu apposer leur signature. Les États-Unis, la Russie, la Chine et Israël. Cet accord d'Oslo a interdit les bombes à sous-munitions particulièrement dangereuses des années encore après avoir été larguées. La spécificité de ces engins, avec Jean-Marc Boivin, le directeur général d'Handicap International, joint par Noël Fantoni.
Alors une bombe à sous-munitions, c'est un terme un peu technique, mais en fait qui renvoie à un gros conteneur qui est donc chargé de petites bombes, qu'on appelle les sous-munitions, et qui sont donc dans ce conteneur programmées pour s'ouvrir à une altitude prédéterminée, et qui va ensuite lâcher plusieurs unités, voire quelques dizaines ou quelques centaines, jusqu'à 600 bomblettes, qui sont censées couvrir une zone assez grande et saturer d'un seul passage tout ce qu'il peut y avoir dessous, un groupe d'armes à détruire, une troupe, etc. Ce genre de conflit où on avait une avancée d'une ligne de chars d'assaut qui était en train d'attaquer un pays n'existe plus. Quand on regarde des conflits d'aujourd'hui, ce sont plus des guerres sur des champs de bataille. Et donc cette arme est parfaitement inadaptée au contexte de la guerre d'aujourd'hui, parce que ce sont essentiellement aujourd'hui des guerres diffuses et extrêmement proches des populations, donc avec des dangers extrêmement forts pour les populations civiles. Le deuxième point, c'est que l'arme n'est plus adaptée par le seul fait aussi qu'elle est extrêmement dangereuse par son manque de fiabilité, puisqu'on estime qu'entre 5 et 40% de ces petites bombes qui sont censées exploser au moment de l'impact n'explosent pas et de fait deviennent des armes d'attente.
Alors vous nous parlez d'armes inadaptées et peu fiables. Pourquoi la Russie, les États-Unis, Israël et la Chine les conservent-elles encore et veulent toujours ne pas les interdire ?
Eh bien, parce que le combat que nous avons mené, qu'il faut quand même saluer comme étant une victoire, parce qu'on a quand même un traité d'interdiction pour le principe du non-respect du droit humanitaire, ces grands pays estiment aujourd'hui ne pas être en capacité d'abord de reconnaître le manque de fiabilité de l'arme, mais aussi se considèrent souvent comme des grands arbitres des conflits dans leur région, ou comme les États-Unis par exemple, pour l'ensemble de la planète, et donc veulent toujours rester, j'allais dire, équipés à parité avec leur potentiel belligérant, et donc ne souhaitent pas se débarrasser de ce genre d'armes, tout en disant qu'ils ne s'en serviront pas.
Alors pourtant, une centaine d'États ont signé le traité d'Oslo qui interdit ces armes-là. Oui. Cette centaine d'États s'est retrouvée dans une conférence à Vientiane la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il est sorti de cette conférence ? Est-ce qu'il est sorti, disons, un plan concret de déminage ?
Alors justement, ça c'est la question de l'enjeu de cette première conférence. Les États qui ont signé se mettent autour de la table pour dire voilà ce que l'on va faire. Alors, quand on a dit ça, on peut se dire, c'est notre rôle à nous, entre autres sociétés civiles et militants pour ce genre de traité, c'est qu'il faut absolument obtenir des axes concrets d'action. La destruction des stocks, l'universalisation du traité pour emmener les autres États à venir le signer de plus largement possible. Et puis, ce qui est central aussi, c'est de mettre de l'argent pour l'assistance aux victimes. C'est ce qui s'est passé sans grande surprise. On n'a pas eu une communication qui nous permettait de dire voilà, on a un plan d'action extrêmement ambitieux. Il est volontariste, tout en étant pour nous insuffisant au regard du manque criant d'urgence à l'action, puisqu'il faut quand même maintenant venir à bout de cette arme et nettoyer les pays les plus pollués, c'est-à-dire faire la destruction des armes qui sont présentes sur le sol.
Donc à Vientiane, il n'y a pas eu de décision, je dirais, très concrète, finalement. C'était une première réunion entre États qui étaient d'accord.
Oui, ils sont d'accord, donc les gens ont dit voilà, on va faire les choses, on va identifier en premier lieu toutes les zones qui sont prioritaires pour la dépollution, désigner dans les mois qui viennent quelqu'un, un État qui sera le référent pour l'assistance aux victimes dans les pays qui seront identifiés comme étant prioritaires. Et encore une fois, c'est un article important parce que c'est l'article 5 du traité qui dit que l'assistance aux victimes est précise. C'est faire la victime qui est la personne mutilée, mais aussi la communauté familiale qui vit autour de cette personne. Quand vous avez un papa dans une ferme qui a sauté sur une sous-munition, c'est toute la famille qui se trouve dans la misère parce qu'il ne pourra plus travailler dans la rizière. Donc c'est vraiment une prise en compte plus large. Aujourd'hui, il nous faut beaucoup plus de moyens que ceux qui sont annoncés, et c'est notre rôle d'accompagner les États pour rappeler à chaque fois leurs obligations.
Est-ce qu'il y a eu une décision qui a été prise sur l'éducation des enfants pour leur dire attention, voilà comment ça se présente, si vous rencontrez ce genre d'armes, méfiez-vous.
Oui, ça c'est aussi un sujet extrêmement fort. C'est ce qu'on appelle donc l'éducation au risque. On réunit régulièrement les communautés villageoises, on le fait déjà par exemple nous à Handicap et puis d'autres ONG, pour leur expliquer le danger des mines antipersonnelles et ce qu'on appelle les résidus de guerre non explosés. C'est-à-dire de dire aux gens de ne pas s'approcher des bombes, des obus qui sont sur le sol et qui sont potentiellement intéressantes pour des raisons économiques. Par exemple, au Laos, le pays le plus pollué de la planète, il y a encore plus de 80 millions de sous-munitions non explosées. Ce sont les enfants qui vont dans la nature pour récupérer ces armes afin de récupérer le métal qui sera vendu sur le marché. Évidemment, pour récupérer le métal, il faut neutraliser la bombe et c'est là que l'accident arrive. Donc on fait tout un travail d'éducation pour dire aux gens ne touchez pas aux armes, vous risquez de perdre la vie et d'exposer aussi les gens autour de vous à un danger de mort extrêmement fort.
Malgré la non-adhésion des trois grands, Russie, États-Unis, Chine et puis d'Israël, est-ce que le traité a quand même des chances d'être appliqué?
Oui, nous ne sommes pas dans un handicap international, on n'est pas dans un angélisme béat, mais nous savons avec l'expérience du traité d'Ottawa que c'est par la répétition de ce genre de conférences pour rappeler les obligations des États et emmener toujours plus d'États à signer ce genre de traité qu'on arrive à tarir le marché de la production, parce que moins vous avez de clients, moins vous avez de producteurs, ça c'est la loi du marché, et que deuxièmement, mais c'est déjà le cas aujourd'hui avec le traité d'Oslo, même s'il n'y a qu'une centaine d'États, c'est déjà beaucoup, qui l'ont signé, ça fait à peu près la moitié des États de la planète, on va dire aujourd'hui. L'exemple, c'est que les Américains ont voté un moratoire qui interdit l'exportation de bombes à sous-munitions qui ne seraient pas fiables à 99%. Donc voilà, c'est dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont exportables parce que tous les travaux des experts ont montré que ces armes n'étaient pas du tout sûres, même si elles sont prévues pour avoir un système de neutralisation automatique, etc. Ça ne fonctionne pas bien. Donc vous voyez, même si tout le monde ne signe pas au même moment un traité, il y a un effet d'entraînement vers la communauté internationale pour dire aux États, ne faites pas cette utilisation, ne vendez pas cette arme, parce que vous allez vous exposer à la critique de la communauté internationale pour une atteinte du droit humanitaire.
Comment amener les quatre à signer ?
Eh bien, à continuer, comme nous faisons depuis tant d'années, à faire des conférences, à démontrer le danger de ces armes. Je rappelle que depuis des années, par exemple, les mines antipersonnelles, même si ces États n'ont pas signé le traité d'Ottawa et ne signeront pas tout de suite le traité d'Oslo, c'est d'avoir gelé totalement l'utilisation de l'arme. Après, pour qu'ils signent, je veux dire, il faudra encore beaucoup, beaucoup de temps. On a cru que les Américains aient signé. L'administration de M. Obama nous avait laissé très clairement entendre qu'il risquait de signer le traité. Vous avez en tête les élections de mi-parcours aux États-Unis. Les Républicains ont repris du poil de la bête. Et maintenant, nous pensons que les États-Unis ne vont pas signer. Mais pour autant, nous continuons beaucoup avec l'opinion publique. Et puis, il y a un moment où les États sont dans une forme d'obligation de signer, ne serait-ce même s'ils n'utilisent pas l'arme, comme un signal vis-à-vis du reste de la communauté internationale pour dire, voyez, même si une grande puissance militaire peut se départir d'une arme, et bien vous pouvez le faire vous aussi. La question, elle est d'abord politique, en termes d'image politique, mais pour les États qui hésitent à signer, c'est beaucoup pour des questions financières, parce que signer le traité, ça veut dire prendre la responsabilité de nettoyer son propre pays des bombes à sous-munitions, de détruire les stocks qu'on peut avoir dans son arsenal militaire. Un seul chiffre, les Américains ont dans leur stock estimé entre 700 millions de sous-munitions et 1 milliard de sous-munitions. Pour vous dire que l'enjeu, en signant un traité comme ça, pour dire dans 8 ans j'aurais détruit mes armes, est quasiment techniquement impossible, techniquement parce que ça demande de créer des industries de défabrication des bombes, mais aussi budgétairement, ce sont des sommes colossales. La France vient d'engager 35 millions d'euros pour détruire ces sous-munitions qui, bien évidemment, sont en nombre beaucoup plus petit.
Un autre chiffre, combien de victimes encore dans le monde aujourd'hui à cause des bombes à sous-munitions ?
50 000 victimes recensées. Encore une fois, ce sont des chiffres toujours à manier avec beaucoup de prudence, parce que dans la plupart des cas, les gens ne vont pas se faire enregistrer auprès de leur commune ou de l'administration dont ils dépendent pour dire, voilà, j'ai été victime d'une bombe, j'ai été victime d'une mine. Il y a beaucoup de gens qui, par fatalisme, pauvreté et grande exclusion, reçoivent cette catastrophe dans leur famille sans jamais le faire enregistrer. Et donc, les seuls chiffres que l'on ait aujourd'hui, c'est 50 000 personnes. Il y a 50 000 personnes aujourd'hui qui attendent d'être aidées pour retrouver l'usage de leurs jambes, pour retrouver la marche de leur vie, c'est physiquement, mais aussi psychologiquement, pour retrouver une place dans leur communauté, retrouver un emploi, et évidemment les soins qui sont très chers et l'appareillage nécessaire. C'est le rôle de Handicap International, on le fait depuis maintenant presque 30 ans, on continue à le faire parce que c'est la priorité, mais c'est hélas trop de victimes. Je rappelle que pendant la conférence cette semaine, il y a 3 jours, il y a 2 jeunes filles qui ont sauté sur une soumission en voulant la jeter par terre pour s'en débarrasser. Une des jeunes filles est morte et l'autre est gravement blessée à l'hôpital à Vientiane aujourd'hui au Laos. Pour vous dire que c'est un quotidien silencieux de victimes.
Et dans quelle partie du monde plus particulièrement les victimes sont-elles catégorisées?
Elles sont dans les pays que tout le monde peut avoir à l'esprit aujourd'hui. Ce sont les zones de conflit récurrents. C'est l'Afghanistan. C'est l'Irak, c'est le Liban, le Kosovo pendant la guerre de 99, c'est l'Irak aussi déjà pendant la première guerre du Golfe et pendant la seconde, c'est la Somalie, un certain nombre de pays qui sont très exposés donc à des conflits qui sont assez endémiques et pour lesquels l'usage des armes lourdes est prisé maintenant parce qu'on a l'impression qu'avec ce genre d'armes, on va casser le moral de la population qui est sous le bombardement. C'est exactement l'effet inverse qui se produit. La débauche de moyens avec cette arme est toujours inversement proportionnelle à les faire chercher. C'est terrible. Le Sud-Liban, par exemple, en 2006, sur les 72 heures de la fin du conflit avec Israël, les Israéliens ont largué 4 millions de sous-munitions. Il y en a 1 million qui n'ont pas explosé. C'était parfaitement inadapté, c'était inutile. Donc on a cette arme qui est présente. La dépollution est longue, elle est périlleuse pour ceux qui font le déminage. Et nous sommes aussi bien placés pour le dire, parce que nous avons des démineurs qui travaillent sur le terrain. Mais c'est aussi et beaucoup des populations civiles qui, pendant des années, des générations, se retrouvent potentiellement exposées devant une arme comme celle-ci qui peut, au pire, les tuer, au mieux, si j'ose dire, les mutiler gravement.